Bienvenue à Créateurs de croissance, un balado d'Investissement Québec. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Xavier Godemer, président-directeur général à l'Azerax, et Renée-Maude Lebrun, directrice gestion des services à l'exportation à Investissement Québec, discutent de stratégies de croissance et de diversification de marchés internationaux. Bonne écoute!
Bonjour Xavier.
Bonjour Renée-Maude, ça va bien?
Ça va super bien, merci toi.
Oui.
Je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir nous parler de l'histoire de croissance de l'entreprise l'Azerax. Est-ce que tu peux nous parler déjà un peu de l'entreprise?
Oui, bien l'Azerax, c'est une entreprise qui a été fondée en 2010, qui a pour but en fait de commercialiser des solutions laser industrielles, principalement dans le secteur automobile. Fait qu'on va faire en fait des machines qui vont aller sur les lignes de production puis qui vont permettre de fabriquer plein de pièces différentes, des batteries, des freins, des moteurs électriques, par exemple. Puis, ben, on a la chance, en fait, d'avoir vécu à travers ça la commercialisation à l'international dans plus de 20 pays.
Puis, comment ça a commencé tout ça, l'international, pour l'Azerax?
Notre histoire a commencé au Québec, en fait. On est bien fiers de ça. En 2015-2016, on a les alumineries du Québec qui nous ont approchés, en fait, Rio Tinto, Aluminerie Alouette, Alcoa, qui regardaient pour une solution pour identifier les lingots d'aluminium, non pas avec de l'encre ou avec des étiquettes papier, mais ils voulaient faire la transition vers le laser pour avoir une meilleure traçabilité, un peu comme on a eu là dans l'industrie pharmaceutique puis dans l'industrie alimentaire. Fait qu'on voulait faire le switch dans cette industrie-là. Fait qu'on a développé la technologie en partenariat avec le feedback, en fait, de ces gros donneurs d'or-là qui étaient établis majoritairement au Québec. On a fait les premières ventes au Québec, les premières installations au Québec. On a donné tout ce qu'on avait à donner. Ça a bien fonctionné. Puis ça a fait en sorte, après ça, que ces compagnies-là, étant justement des multinationales, nous ont amené dans d'autres usines qu'elles avaient dans d'autres pays. Puis ben après quelques années, on s'est ramassé qu'on était le standard dans 7 des 7 plus gros producteurs d'aluminium de la planète, au Moyen-Orient, en Norvège, en Europe, en Amérique du Nord. On est devenu le roi d'un carré de sable, dans le fond. T'sais, on a conquis un marché qui est un petit marché en soi. C'est quelques millions de dollars de ventes par année, mais on est devenu les meilleurs là-dedans. Puis ça nous a permis de s'établir à l'international.
Donc, ça a commencé avec les alumineries que vous connaissiez bien. Comment t'es passé des alumineries jusqu'au secteur automobile?
En fait, d'entrée de jeu, nous, quand on s'est lancé dans les alumineries, on savait que ça allait être un marché qui allait pas nous permettre de soutenir notre croissance ad vitam aeternam. On s'était rendu compte, en fait, que c'était vraiment dans le secteur automobile où est-ce qu'on devait aller. Maintenant, ne rentre pas qui veut dans cette industrie-là. On était à l'époque peut-être 10-15 employés. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée. L'automobile, c'est d'abord avant tout une gestion de risque au niveau des fournisseurs. Donc, notre idée à nous, ça a été justement de conquérir les alumineries puis de suivre le lingot d'aluminium. Un des plus gros clients, en fait, des alumineries, ben, c'est l'industrie automobile qui achète l'aluminium, qui achète l'acier pour fabriquer des voitures. On a suivi ça. La façon de faire, ça a été, après ça, bien entendu, de travailler avec les alumineries en réglant leurs problèmes à eux. Ben, ils étaient très enclins à parler nous à leurs fournisseurs clés, donc des gens de l'industrie automobile, de notre solution, parce qu'il y avait les mêmes enjeux de traçabilité, en fait. Fait qu'on s'est servi du Québec, qu'on s'est servi après ça notre petite expansion internationale pour créer des brèches pour rentrer dans le secteur automobile. C'est sûr qu'initialement, on a ciblé, en fait, ciblé peut-être pas stratégiquement, mais ce qui a fonctionné, ça a été les early adopters. Fait que c'est un principe qui est connu dans le monde des affaires. Il y a des clients qui sont très friands de nouvelles technologies, qui se vantent d'être les premiers à essayer des choses. Ben, c'était eux qui étaient aptes à prendre un risque avec nous, en fait. Puis plus ça allait, plus on arrivait à conquérir de ces compagnies-là, ben plus on a été capable d'adresser par la suite, je vous dirais, les late adopters ou les compagnies qui avaient besoin de voir qu'on avait des références puis qui voulaient pas être les premières à acheter nos technologies.
Puis est-ce que tu as commencé à recevoir beaucoup de demandes variées, diversifiées? Comment tu as fait pour prioriser les marchés ou pour établir une stratégie?
Merci pour la question, Renée-Maude. C'est une excellente question. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs font face à ça. Aujourd'hui, tu trouves un site web, tu investis dans le SEO, le Search Engine Optimization, puis là, tu te mets à avoir des leads qui viennent de partout dans le monde. Mais il y a une différence entre partir à la conquête de la planète ou partir à la conquête d'un pays, surtout quand t'es petit. Fait que dans notre cas à nous, ben, l'idée, c'était initialement de regarder où est-ce que l'industrie se situe, puis après ça, de faire des choix. Fait que nous, chez l'Azerax, on a fait le choix, ça fait plusieurs années, en fait, que l'Amérique du Nord, l'Allemagne et le Japon, c'était les trois territoires où est-ce qu'on voulait vraiment mettre un effort soutenu de commercialisation en direct.
Et avec pourquoi ces trois-là?
Ben parce que on regarde où sont les OEM automobiles, tu sais, les Ford, mm-hmm. les Stellantis, les GM, les Tesla sont en Amérique du Nord. Après ça, en Allemagne, t'as Volkswagen, BMW, Daimler. Au Japon, ben si on les connaît, là, Toyota, mm-hmm. Honda, Mazda, puis Nissan. Donc stratégiquement, on s'est dit, on peut pas être partout, mais on va focusser nos efforts en direct sur ces marchés-là. Donc on va avoir une stratégie beaucoup plus aiguisée, on va investir beaucoup plus d'argent. Dans notre cas à nous, il fallait quand même être présent dans d'autres pays parce que Honda, ils ont des usines au Canada, puis BMW en ont, je peux me tromper de pays, mais au Mexique ou dans d'autres endroits. Les compagnies, c'est des compagnies globales qui sont pas juste en Allemagne ou pas juste aux États-Unis. Fait qu'on se devait quand même d'avoir une présence en Italie, en des pays scandinaves, un peu partout dans le monde. Fait que c'est là qu'on a mis une structure hybride, en fait, de force de vente directe et indirecte. Donc, nous, en Allemagne, aux États-Unis et en fait, au Japon, je pourrais en parler tout à l'heure, là, c'est un modèle un peu différent, mais on a mis des modèles très, très directs où on intervient avec ces clients-là. Puis dans les autres pays, ben, on a mis en place un réseau de distribution. Ça a quand même été long avant de trouver le bon modèle de partenaire. Puis ultimement, ben, on a trouvé que nous, dans notre cas, c'était des partenaires qui pouvaient faire la vente, mais aussi du service en première ligne, service technique, dans la langue locale. Puis ça nous a permis, après ça, de couvrir, je pense qu'on couvre officiellement 25 pays, mais avec un modèle qui est hybride, puis qui est adapté à notre capacité, en fait, de financer cette croissance-là qui est limitée comme dans toute entreprise.
Puis finalement, vous avez décidé d'ouvrir des filiales. Donc, comment est venue cette décision importante quand même pour l'entreprise de s'établir à l'international?
Oui, faut l'assumer quand on décide de s'ouvrir des filiales. Tu sais, les marchés sont différents. Quand on est au Québec, typiquement, c'est relativement plus facile de percer le marché nord-américain, les États-Unis, mm-hmm. entre autres. Donc, en fait, on s'est rapidement ouvert une filiale aux États-Unis, mais c'était uniquement dans le but d'engager des employés américains. C'était pas dans le but d'en faire un site manufacturier ou d'offrir du service ou de faire des tests pour des clients. L'Allemagne, par contre, ça, c'était vraiment un chantier de plus grande envergure. On a essayé, bon an, mal an, là, de développer en direct à partir du Québec, de voyager là-bas puis d'essayer de percer le marché. Mais on s'est rendu compte assez rapidement, d'ailleurs en communiquant avec des gens là qui pouvaient aller, les Trade Commissioners ou les gens d'Investissement Québec international justement, que pour vendre en Allemagne, il faut que tu sois allemand. Et puis de facto, quand on a ouvert notre bureau en Allemagne avec quelques employés allemands, ben c'est là que les commandes ont commencé à rentrer. Ça a été une aventure, en tout cas, on pourrait faire un balado juste sur ce sujet-là, là. Mais c'est ça, ça a été une étape charnière chez Lazerax de faire ce saut-là, puis de commencer.
Il y a eu des apprentissages là-dedans aussi, en le faisant, non?
Beaucoup d'apprentissages, beaucoup d'essais-erreurs. Je pense que, initialement, on a fait un bon travail de regarder avec des gens qui l'avaient fait, ouvrir un bureau en Allemagne. Mais après ça, c'est peut-être dans un même marché géographique, mais c'est avec des clients différents qui ont des façons d'acheter différentes que dans le secteur automobile. Une localisation, l'Allemagne, c'est un grand pays aussi, là. On s'est rendu compte dans notre cas que la localisation est importante. Le premier bureau, on l'a pas ouvert au bon endroit. On a fait le choix, en fait. On était tellement heureux d'avoir trouvé un employé, un Allemand qui était prêt à embarquer dans une start-up canadienne, qu'on a bâti le bureau autour de lui, mais le bureau, il était à 10 heures de distance en voiture du plus proche des clients. Fait que, tu sais, ça a pas fonctionné. Il a fallu leur déménager, il a fallu réengager. Fait que ça s'est fait un peu à la méthode entrepreneuriale de essai-erreur, fail fast, puis on apprend rapidement, puis on recommence. Puis
peut-être les différences avec le Japon, par exemple, ça devait être une autre dynamique complètement.
Ouais, ben le Japon, en fait, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit de pas y aller parce que c'était trop compliqué. Nous, on a eu une opportunité qui s'est présentée. En fait, on a un partenaire stratégique qui s'est manifesté pour à la fois ben, distribuer nos produits exclusivement au Japon, puis quelqu'un qui était très bien connecté dans l'industrie. Puis en plus, c'est devenu au fil du temps un actionnaire minoritaire de l'entreprise. Fait qu'on est allé vraiment dans un modèle spécifiquement adapté au marché japonais qui est une culture d'affaires complètement différente. Ça va beaucoup moins rapidement, par exemple, qu'en Amérique du Nord. Il y a un côté vraiment apprendre à se connaître, que le partenaire japonais et les clients japonais vraiment comprennent ta technologie avant de l'acheter. Fait que le message derrière ça, je pense que c'est chaque pays, chaque culture est différente. Puis souvent, en tout cas, moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui essayaient de rentrer leur modèle ou qui partaient à la conquête du monde avec leur modèle d'affaires qui avait fonctionné, par exemple, au Québec ou aux États-Unis, où est-ce que la culture d'affaires est pratiquement la même. Mais t'as pas le choix de t'adapter, en fait, à la façon d'acheter de tes clients dans le pays où ce que tu veux être, la puis, façon.
Par rapport aux trois marchés, là, Amérique du Nord, Japon, Allemagne, c'est le modèle d'affaires, comment il s'est adapté. Puis aussi, tantôt, on a jasé de ta proposition de valeur qui était un peu différente d'un marché à l'autre, d'un interlocuteur à l'autre. J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
Oui, ben en fait, je sais pas si tu fais référence à la notion de bien comprendre les valeurs, en fait, des clients.
C'est ça que oui, tu veux puis dire, le pitch comme tel, comment on présente l'entreprise ou le
ouais,
produit.
Oui, ben en fait, puis... c'est ça, on s'est rendu compte que oui, OK, il y a l'aspect géographique. Fait que si on regarde les États-Unis, ben c'est très business case là. Tu sais, j'ai un programme automobile, j'ai de l'argent à investir, est-ce que le retour sur l'investissement est rapide, puis c'est très nord-américain, puis c'est ce qu'on connaît souvent là quand on se lance en affaires. Quand on va en Allemagne, ben là, on est vraiment plus au niveau les spécifications techniques. Fait que là, tu tombes dans une notion de très bien documenter ton produit, de vraiment prouver que ton produit fait ce que tu prétends qu'il va faire. C'est tu dois dire ce que tu fais puis faire ce que tu as dit que tu allais faire. En même temps, quand tu arrives à franchir cette barrière-là, c'est relativement facile de vendre en Allemagne si tu as justement, tu lis la marchandise telle que tu l'as vendue, puis si justement tu as des Allemands qui te représentent. Ça peut paraître plus challengeant que ça l'est vraiment. Quand tu tombes au Japon, mais là, tu es dans le relationnel, la confiance, apprendre à se connaître. La culture japonaise est une culture très spéciale puis qui est vraiment le fun d'ailleurs. Mais ça va lentement, faut s'adapter. Puis après ça, il y a le pays, la géographie. Mais exemple, dans le secteur automobile, il y a aussi l'identité de l'entreprise. Il y a des comptes majeurs chez nous qui sont très centralisés. Fait que la façon de rentrer dans ce compte-là, ça va être, par exemple, de démontrer dans un processus de qualification technologique, par exemple, au centre R&D de cette multinationale-là, que notre technologie fait le travail. Puis là, ben, ils vont nous recommander à toutes leurs entreprises qui produisent. Puis après ça, tu as une compagnie qui est très, très, très similaire, mais qui, elle, est décentralisée. Un exemple, c'est Magna. Magna, ils ont, je sais pas, 300 usines sur la planète. Et leur façon de procéder à eux, c'est de créer une compétition entre chacune des usines. Fait que là, tu peux pas rentrer un peu dans un modèle cheval de Troie, puis tu rentres à une place, puis ça se propage partout. T'es vraiment plus à porte à porte, chacune des usines, tu dois convaincre les bonnes personnes. Fait que t'es dans la même industrie, le même territoire, mais tu dois t'adapter encore une fois à comment est-ce que ton client opère son entreprise.
Ben, c'est vrai qu'on est chanceux parce qu'on voit toutes sortes d'entrepreneurs différents dans des secteurs très, très variés. Puis, je pense qu'un des défis, là, vraiment des conseillers, c'est de détricoter, justement, puis d'analyser les méthodes, les achats. Tu parlais tantôt du secteur automobile, comment ça peut être très différent, même d'un territoire à l'autre, puis d'une entreprise à l'autre. Donc, je pense que pour les conseillers, pour être capable de mieux soutenir les entrepreneurs, ben, c'est d'aller chercher le filon, l'angle, et puis de comprendre les méthodes d'achat de chacun. Et puis, je pense que quand ils réussissent, là, puis qu'ils ont vraiment trouvé la manière d'entrer, puis les bonnes informations, puis qu'ils vont vraiment venir débloquer ou ouvrir une porte, là, c'est vraiment là où les yeux pétillent et ça s'illumine là, dans nos équipes. Notre but, c'est vraiment de trouver le meilleur moyen d'aider les entreprises. Puis c'est vrai que c'est complexe. Ça demande du temps, puis ça demande vraiment une bonne compréhension. Souvent, c'est des conseillers que ça fait des années qu'ils vont travailler sur un secteur, puis qu'ils vont avoir une crédibilité, puis une super bonne compréhension aussi de ces secteurs-là. Puis ce qu'on voit aussi, que je trouve vraiment fascinant, c'est la manière dont les entrepreneurs vont faire leur pitch de vente, leur proposition de valeur, parce qu'on entend, on organise les B2B, hein, les mises en relation avec les acheteurs, les partenaires potentiels, puis on entend beaucoup de pitchs de plusieurs de nos entreprises, et c'est très varié, les méthodes. Mais je dirais que là où les entreprises scorent le plus, c'est s'ils prennent le temps de dialoguer, puis d'écouter l'acheteur, puis vraiment de faire des recherches sur la personne avec qui ils vont travailler, et puis d'aller chercher d'adapter en fait leur discours avec chaque acheteur. Puis on tente de les préparer le plus possible en disant, OK, ben on va faire telle mise en relation, ça nous a pris des mois à obtenir ce rendez-vous-là. Il faut être prêt, donc on essaie de donner le plus d'informations possible à l'entreprise pour qu'elle puisse s'adapter. Mais c'est vraiment un défi, puis c'est un art en fait.
Ouais, je peux faire du pouce là-dessus. Là. On s'est aiguisé les dents, je dirais, au fil du temps à essayer de vendre à des joueurs dans le secteur automobile. Puis je pense qu'il y a deux choses pertinentes que je pourrais communiquer. La première, c'est on passe beaucoup de temps avec nos représentants commerciaux, surtout les nouveaux, à à leur dire vous avez une bouche et deux oreilles. Donc, essayez d'avoir un ratio quand vous êtes dans une rencontre justement de démarchage commercial, de parler moins que vous écoutez ou vous posez des questions avec le client. Puis la première raison de ça, c'est pour créer une relation. Souvent, le stress fait en sorte que les gens veulent déblatérer le pitch, puis là, ils veulent changer des slides, puis ils en ont 120, puis ils ont juste 30 minutes, puis ça, c'est peut-être un stop là qu'il faut faire à ce niveau-là. Donc, c'est ça, on essaie d'entrer en relation puis de montrer de l'intérêt. Puis en fait, l'intérêt, il est sincère parce qu'après ça, ben, il va falloir probablement, si ça fonctionne, faire une soumission, puis faut comprendre c'est quoi que le client recherche, là. Fait que c'est la différence entre tirer à l'aveugle ou tirer bullseye, là. Si t'as bien compris c'est quoi le besoin de ton client parce que tu l'as questionné puis t'as pris le temps puis de vraiment approfondir les trucs qui étaient pas clairs, ben tu te mets dans tes probabilités de gagner après ça sont exponentielles. Puis l'autre chose qu'on parlait de préparation, moi c'est quelque chose que je vois, j'ai commencé à coacher plusieurs entrepreneurs puis souvent les gens arrivent pas préparés. Ils ont un pitch deck là, ou un pitch commercial, j'aimerais dire une présentation PowerPoint, puis se préparer pour une rencontre, ben c'est changer le logo dans l'entête du nouveau client. On efface l'ancien, puis on met le nouveau, puis on repart le pitch. Moi, j'ai une super de belle histoire. Là, on était chez Hydro, qui est un gros producteur d'aluminium en Norvège. Puis on avait vraiment bien pris le temps d'analyser c'est quoi les valeurs corporatives de l'entreprise. Puis la première, ça a peut-être changé, mais là, plusieurs années, la première valeur, c'était la sécurité des travailleurs. Puis nous, ben on fait du laser, fait que le laser, c'est dangereux dans une certaine mesure. Puis dans notre présentation, on le couvre tout le temps, la sécurité laser, en fait. Comme quoi, on le gère bien, puis on certifie que c'est sécuritaire. Mais dans ce cas-là, on avait vraiment mis l'emphase là-dessus. Le sujet de la sécurité laser, qui était notre sujet 6, par exemple, dans notre pitch traditionnel, on l'a mis au sujet 1. Fait que tout de suite, d'emblée, quand on est entré en relation, on a ouvert la rencontre, on a dit, ben on va passer plusieurs minutes à parler des performances, mais avant de commencer, on voudrait juste vous mentionner que pour nous, la sécurité laser, c'est un élément super important. Puis on le sait que pour vous aussi, ça l'est parce que c'est une valeur de votre entreprise. Fait que on va commencer à régler ça tout de suite. Nos machines sont 100% sécuritaires. On les certifie. On s'occupe de tout. Inquiétez-vous pas. Puis ça l'a complètement allumé le meeting parce que les gens ont vu que, OK, ces gens-là comprennent c'est quoi notre réalité. Nous, on s'en fait parler tout le temps de la sécurité. Fait qu'il faut tout de suite être capable de les outiller à répondre à ça. Puis en faisant ça, ça a ouvert la porte puis ça a fait qu'aujourd'hui, ben on est standardisé chez ce compte-là puis on a une belle relation qui perdure depuis plusieurs années.
C'est ça, ça fait toute la différence. Puis, tu sais, là, on a dit d'adapter les propositions de valeur, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses que vous avez dû adapter par rapport aux marchés internationaux, le modèle d'affaires notamment? Ou...
Ouais, ben effectivement, chez Lazerax, on a migré en fait d'un modèle d'acquisition de comptes. Hein. Quand tu commences, notamment à l'international, ben là, tu veux percer des comptes, tu veux rentrer chez les clients. Puis éventuellement, ben tu as réussi à faire ta première vente dans telle compagnie, puis dans telle compagnie, puis dans telle compagnie. Puis là, tu veux tomber dans un modèle de repeat business, de pénétration de compte, te propager au sein de Ford, de chez Tesla, de chez peu importe quelle compagnie. Fait qu'effectivement, il a fallu pivoter le modèle d'affaires. Initialement, on a beaucoup investi dans notre marketing web pour que notre site web soit super attractif en termes de génération de leads. On est devenu là, dans les meilleurs au monde. J'étais au Japon la semaine dernière, puis au Japon, je tapais nettoyage laser, puis c'était Lazerax qui sortait en premier. Là.
OK, je t'arrête là tout de suite. Comment vous avez réalisé ça, déjà au point de vue web?
Ouais, ben c'est de travailler avec des gens qui sont hyper compétents. À l'interne, on investit beaucoup là-dedans. Beaucoup plus, je vous dirais, que la moyenne des ours. Pour nous, c'était très stratégique. Fait qu'on a investi des montants substantiels pour, entre autres aussi, pour paraître plus grand qu'on l'était en réalité. Le site web, c'est soit une façon de générer des leads, mais c'est aussi une image corporative, un brand que tu arrives à communiquer. Fait que ça a toujours été au cœur de notre identité, puis ça a toujours été très important pour nous. Puis après ça, ben c'est comme le bon vin qui s'affine année après année. Là. Tu sais, je veux dire, au début, on était correct, puis maintenant, on est devenu bon, puis maintenant, on est devenu excellent. Puis aujourd'hui, on est excellent, puis ça donne des résultats. C'est encore important pour nous, le site web. Par contre, le danger du site web, c'est que ce que ça fait, c'est que ça t'amène des clients qui sont prêts à acheter parce qu'ils ont des projets, fait qu'ils te contactent, mais c'est pas nécessairement les clients que tu veux avoir. On s'est ramassé rapidement, nous, que puis c'est encore vrai aujourd'hui, 90% des requêtes qu'on a sur le site web sont rejetées en commençant. Mmh. Ils passent pas la première
fait
barrière.
Trop de leads. C'est un beau problème à gérer au final d'avoir quand même...
C'est difficile de dire non comme entrepreneur, comme ouais. Entreprise, mais c'est la notion de focus est hyper importante si tu veux être capable de croître rapidement dans un marché en particulier.
Mais ça, on le voit beaucoup. C'est un des défis là, des entrepreneurs avec lesquels on travaille, c'est la priorisation. Souvent, ils vont venir vers nos équipes, là, puis ils veulent attaquer tout plusieurs verticales, en fait, plusieurs secteurs et ou plusieurs marchés en même temps et où ils obtiennent du succès, tant mieux s'ils ont beaucoup de leads, mais ça fait en sorte qu'ils sont beaucoup, ils sont très éparpillés puis ont quand même un niveau de ressources ben, limitées. Donc, on essaie d'y aller par étapes, mais c'est vraiment un défi là, de nos entreprises qui sont en croissance.
C'est un défi. Puis dans notre cas, à nous, justement, maintenant, on est arrivé à la conclusion que plutôt que de mettre de l'argent pour générer 10 % de bons leads, ben, on s'est questionné, OK, voici les 100 clients chez qui on veut être puis générer du repeat business. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos dollars marketing ou avec nos dollars de commercialisation pour focusser sur ces 100 clients-là. Fait qu'on a complètement migré, pas complètement, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le site web est un actif qu'on valorise puis qui génère énormément de demandes puis on en a besoin, mais on a rajouté à ça puis on a pondéré, en fait, nos investissements dans tout ce qui est le account-based marketing. Plutôt que de générer des demandes de clients qui ont besoin de laser mais qui sont pas nécessairement qualifiés en termes de qui sont ces clients-là, de dire, ben, je vais générer la demande auprès des bons clients, mais ils sont peut-être pas prêts à acheter tout de suite. Fait que c'est le monde à l'envers. Puis ça donnait encore une fois un second souffle à nos efforts commerciaux. Ça génère des résultats incroyables. Dans la notion de, encore une fois, parler aux bonnes personnes. Mais là, la notion de patience embarque parce que, comme je viens juste de dire, ben tu parles aux bonnes personnes dans les bonnes compagnies, mais c'est peut-être pas demain matin qu'ils ont besoin d'acheter un laser à $1 million. C'est peut-être dans 6 mois, c'est peut-être dans 1 an. Fait que c'est une approche qui est complètement différente d'apparaître dans les surroundings, excusez-moi l'anglicisme, des bonnes personnes, les stakeholders, donc les acheteurs. Dans notre cas, ça peut être les directeurs de production, les gens de qualité. Fait qu'on fait des campagnes marketing très ciblées avec du contenu marketing très, très ciblé pour les stakeholders qui nous concernent quand on regarde comment est-ce que nos clients achètent nos solutions. Fait que ça a été un beau défi. C'est une science qui est un petit peu moins mature, je dirais, le account-based marketing que le web marketing. Mais il y a des choses incroyables à faire avec ça aussi. Puis nous, dans notre cas, ça a commencé rapidement à donner des supports de
beaux résultats. Ça a transformé un peu la manière dont on travaillait la force de vente en Allemagne ou au Japon, au niveau des employés, puis de la filiale aussi.
En fait, partout. Parce que il a même fallu changer le modèle. La plupart des gens travaillent avec un modèle, avant même de parler du Japon puis de l'Allemagne, là. Typiquement, les entreprises, il y a une équipe marketing qui génère des leads, qui les qualifie, puis qui vont, quand ils vont les qualifier, vont les transférer à l'équipe des ventes. Nous, il a fallu vraiment intégrer les deux équipes ensemble. C'était pas le marketing d'abord, puis les ventes après. C'était une danse, un ballet, en fait, entre les vendeurs qui ramenaient de l'information, de telle personne est la bonne, fallait faire une campagne pour parler à telle. Il a fallu vraiment là, revoir le processus commercial dans son ensemble. Puis c'est sûr que ça a eu un impact pour les filiales aussi, parce que là, tu ne peux pas nécessairement faire les campagnes de la même façon en Europe, où est-ce qu'il y a des lois qui s'appliquent pas ou qui sont pas les mêmes en Amérique du Nord. Fait que tu veux rester toujours du bon côté de la ligne, mais en même temps, tu veux être agressif. Fait qu'il a fallu justement pondérer. On fait beaucoup plus de trade show, par exemple, en Allemagne, parce que dans la culture d'affaires, les trade show, c'est super important. Puis nous, quand on regarde nos métriques de conversion, ça fonctionne super bien. Aux États-Unis, on fait moins de trade show, plus de campagnes. LinkedIn, puis fait qu'effectivement, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de BI puis de data disponible que tu peux faire des tests AB rapidement, tu regardes une campagne, tu regardes qu'est-ce qui marche dans tel, hop, tu t'ajustes, tu mets plus d'argent là, dans tel pays, telle affaire fonctionne moins, hop, on va couper ça, on va mettre plus de trade show. Fait qu'encore une fois, l'importance de s'adapter à son marché géographique, à l'identité de ton client, comment le client opère, à la culture locale. Ça fait partie, en fait, du plaisir de s'en servir à l'international, puis c'est que c'est pas simple, mais en même temps, ça se fait, puis c'est de trouver la recette à chaque fois que tu te lances dans un nouveau pays.
La croissance de l'entreprise, juste l'histoire, cette croissance-là est incroyable, mais elle n'est pas terminée. C'est quoi les défis actuels de Lazerax?
Ouais, c'est une belle question. On a le vent dans le dos, ça fait 3 ou 4 ans qu'on fait 60% d'augmentation de notre chiffre d'affaires. On est bien fiers de ça. C'est sûr que là, on tombe dans un modèle où est-ce que on migre un peu peut-être d'un modèle où ce qu'on était opportuniste, puis on a saisi ce qu'on appelle les market pull, là, des clients qui nous appellent, puis pourriez-vous développer ci, puis ça, puis on a dit oui, fait que ça nous a fait grandir comme ça. Là, on tombe dans un modèle beaucoup plus stratégique, tu sais, avoir une stratégie de croissance pour aller à 100, 200, 300 millions de chiffre d'affaires. Fait qu'on se structure différemment. Puis là, en ce moment, justement, on est dans une grosse refonte de notre plan stratégique. La question de faire des acquisitions vient sur la table, bien sûr, mais faire des acquisitions en 2023, c'est moins évident qu'avant. Je sais pas si vous le voyez chez vous, mais le volume, le deal flow d'acquisition a vraiment baissé. Les profits sont en baisse, puis les taux d'intérêt sont à la hausse. Fait que tu te ramasses un peu, ou souvent dans la situation où est-ce que c'est comme un peu quelqu'un qui achète un bloc appartement, mais les loyers payent pas l'hypothèque. Fait que c'est un pensez-y bien. Tu sais, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de risques à faire des transactions. Je sais pas si c'est ce que vous voyez aussi de votre côté.
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de demandes, du moins. Peut-être que les entrepreneurs auparavant osaient moins aller en implantation ou en acquisition, et trouvaient que leur modèle actuel faisait le travail, comme on dit, mais de moins en moins. Donc, les entrepreneurs, ils viennent vers nous, puis ils nous demandent davantage d'informations stratégiques, justement, pour prendre ces décisions-là qui sont vraiment significatives là, dans la vie d'une entreprise. Donc, ils vont nous demander de travailler comment ça fonctionne l'ouverture d'un bureau, faire des comparatifs entre certains marchés, évidemment, toute la question réglementaire, etc., fiscale, les travailleurs. Tu sais, dans le fond, il y a des enjeux de main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui, les enjeux aussi de chaîne d'approvisionnement, de se rapprocher de nos clients. Donc, ça vient avec la demande croissante des entreprises de connaître davantage leur environnement pour savoir s'ils doivent s'implanter ou s'ils doivent faire une acquisition. Donc, ces questions-là reviennent plus parce que les entreprises du Québec vont devoir justement aller davantage sur être présents sur les marchés. Puis je pense que il y a eu une réappropriation hein, aussi des marchés locaux. On le voit ici au Québec, aux États-Unis, ailleurs. Donc un rapatriement là des chaînes d'approvisionnement. Et donc pour continuer à desservir les clients, ben souvent les entreprises vont commencer à envisager là, cette option-là là, de s'implanter. Donc en fait, la demande chez nous pour ce genre de soutien-là est en croissance malgré les difficultés que tu viens de mentionner parce que c'est vrai que c'est un environnement économique qui est quand même difficile en ce moment. Ceci dit, c'est un très bon moment pour commencer à réfléchir à ça puis à se préparer.
Ouais, parce qu'il y a des belles opportunités aussi qui se présentent. Il y a des compagnies qui, malheureusement, vont peut-être moins bien ou qui étaient peut-être moins solides au niveau de la trésorerie. Puis là, justement, pour un entrepreneur qui est prêt ou qui a un bon plan de match, ben il peut arriver, oui, l'argent coûte cher, mais peut-être que le prix de l'acquisition est plus bas qu'il pouvait l'être là, 2 ans quand tout le monde allait bien. Puis qu'il y avait de l'argent dans le marché, sans bon sens.
Exactement. Donc là, c'est repérer des cibles, commencer à faire vraiment toute la démarche de financement là, derrière ça aussi. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour la Zerax? Est-ce qu'il y a des c'est quoi les prochaines étapes?
Ben c'est un peu en fait une entreprise qui grandit. Comme tu disais tout à l'heure, René Maud, on n'a pas fini de grandir. On a encore un potentiel incroyable, je pense, sincèrement. Après ça, ben c'est prioriser puis c'est naviguer à travers l'incertitude du marché. Nous, on a une bonne partie de notre chiffre d'affaires qui est dans les batteries automobiles. Fait qu'on est chanceux parce qu'il y a beaucoup d'investissements. On voit Northvolt, par exemple, qui s'établit au Québec. Bien, c'est déjà un client à nous, Northvolt, en Suède. Mais on parle de récession, on parle d'inflation, on parle de pénurie de main d'œuvre. Fait que, tu sais, on navigue dans un environnement qui est encore hostile. On a eu droit à la COVID. Après ça, on a eu droit à le supply chain, la pénurie des composants, puis la hausse des coûts. Puis là, ben là tout d'un coup, c'est peut-être une récession. Fait qu'on navigue là-dedans, dans un mode où ce qu'on va encore générer une croissance supérieure à 50% année après année. Puis,
mais le fait que vous êtes établi dans d'autres marchés, est-ce que ça vient justement donner un peu plus d'équilibre ou de pas mettre les œufs dans le même panier? Ou
ben oui, ça aide beaucoup, effectivement, parce que, par exemple, en Allemagne, aujourd'hui, le coût de l'énergie, gaz naturel, avec la situation en Russie, malheureusement, fait en sorte que le coût de l'énergie a vraiment augmenté. Fait qu'il y a moins d'investissements qui se font dans une partie du secteur industriel en Allemagne, ce qui est moins le cas aux États-Unis. Par contre, on a quand même une dépendance. 90% de nos ventes sont dans le secteur automobile. Fait que si, en général, le secteur automobile va moins bien, ben on va être impacté. Fait que, tu sais, à plus long terme, on regarde des stratégies de diversification. Mais encore une fois, ça veut pas dire de vendre partout, dans tous les marchés, à tous les gens qui ont besoin d'équipement laser, là. Fait que une des questions qu'on se pose sincèrement aujourd'hui, c'est quoi notre prochain marché qui est peut-être moins en lien direct avec le secteur automobile ou la chaîne de valeur automobile. Fait que ça, c'est un des sujets d'intérêt. Encore une fois, on grandit, on franchit les étapes une à une. Moi, je crois pas à la notion de prendre l'ascenseur puis t'es au niveau 1 puis t'essaies de monter au niveau 14 du jour au lendemain. Faut que ton entreprise apprennent, faut que le leadership, le management apprennent à chaque année. C'est dans notre cas à nous, croître de 50%, 60% par année, c'est tu regardes en arrière, voilà un an, on était où, puis c'est pas la même business, là. C'est pas le même nombre d'employés, c'est pas t'as des clients dans des nouveaux pays, t'as plus de risques à gérer. Fait que tu sais, on veut aller vite parce qu'on veut capturer un marché. Il y a une opportunité de le capturer, mais en même temps, on veut pas aller trop vite non plus, puis s'enfarger, puis débouler les marches. Fait que c'est un juste milieu à trouver entre la croissance puis bien faire les choses. Les entrepreneurs vont se reconnaître là-dedans. Là. C'est pas une chose en particularité qu'il faut faire. C'est faut gérer toutes les choses. Des fois, il y a un feu qui se déclare, faut l'éteindre. Puis des fois, la toiture elle coule là. Fait qu'il faut réparer le toit. Puis en même temps, t'agrandis ta maison à chaque année. Fait que c'est un peu les joies aussi de travailler dans un contexte d'entreprise en croissance. C'est qu'il y a pas de jour qui se ressemble. Puis les défis changent tout le temps. T'sais, tu règles un problème, puis il y a un autre défi qui se crée parce que t'es rendu plus gros. Puis t'es rendu dans... Fait que c'est de vivre en fait notre croissance, puis de l'assumer, puis d'aller, de continuer à avancer.
Bien, merci beaucoup, Xavier, pour ce partage. J'espère que ça aura su inspirer d'autres entrepreneurs. Donc, merci beaucoup.
Merci à toi aussi, René.
Merci d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez apprécié cet épisode de la série Créateurs de croissance, conçu et réalisé par Investissement Québec. Pour écouter tous les épisodes, visitez le investquebec.com/balado. À très bientôt.